heureuse avec foyer et décor unique. Venez savourer notre sublime soupe thaï et nos spécialités les plus exquises. Le midi ou en soirée, venez vivre une expérience culinaire de première qualité. Le Palais Thaï, 3960 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Réservé pour la Saint-Valentin au 418-838-7888.
Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage Les Pièces CRS, c'est toujours mieux que décent. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise, leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage Les Pièces CRS.
Les Pièces CRS.
Découvrez-les, adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage Les Pièces CRS, 527 rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476.
681-4476. Domptez l'hiver avec Kia Lévis, le meilleur concessionnaire Kia au Canada. Dès maintenant, chez Kia Lévis, les quatre premiers paiements hebdomadaires vous sont offerts sur le Sportage et le Sorento 2020. Obtenez aussi un taux de financement à partir de 0% sur modèles sélectionnés. Pour tous les détails, passez-nous voir chez Kia Lévis. Avec 0% d'intérêt et 4 versements à nos frais, avouez que ça commence à vous tenter.
Vapking prend encore de l'expansion. On ouvre une succursale toute neuve à Lauzon le samedi 15 février. Venez nous voir, mais surtout, si vous cherchez un emploi, contactez-nous. On prend les CV jusqu'au 7 février. Nous sommes à la recherche d'employés d'expérience pour se joindre à notre famille. 418 903 8282. 418 903 8282.
CJMD 96.9.
Bonsoir, bonsoir, ici Bonhomme Carnaval, qui s'est emparé du micro sur les ondes de CJMD. En ce climat hivernal qui s'est emparé de la ville de Québec, normalement, je vous inviterais à venir nous rejoindre et célébrer le Carnaval de Québec. Mais pour les 30 prochaines minutes, je vais vous inviter à demeurer en ondes à CJMD 96.9 pour s'intoniser et écouter la meilleure émission de sport dans la grande région de Lévis, c'est-à-dire l'univers du sport en compagnie de vos animateurs Gaétan Dumont et Alain Breton. Bon carnaval à tous!
Wow! Merci! Merci, bonhomme! Gaétan, on avait de la grande visite. On avait de la grande visite. Ce soir, on avait Bonhomme Carnaval qui aurait pu dire que notre émission est une commandite de l'Everest, de la Côte-du-Sud, équipe Junior 3A. Basé à Montmagny, qu'on a eu l'occasion de voir à l'œuvre ici même à Lévis dimanche dernier.
C'est ça.
Hein? Très bon match. On a
très
eu
bon match. Ouais. Disons qu'il y en a deux qui ont très bien performé, le trio Gagnon, là, comme on pourrait dire.
Oui, ben, entre autres, Yann-Cédric Gaudreau, quatrième marqueur de la Ligue, qui a été fidèle à sa réputation. 3 buts, 2 passes dans le match. Donc, excellente partie de son côté. Fait que, puis, content de la foule. Écoute, j'ai parlé aux gens de l'Everest. Les gens ont été très impressionnés de voir 462 spectateurs se déplacer. Oui, il y avait là-dessus des habitués, des gens de Montmagny, des spectateurs habituels, mais beaucoup de nouvelles personnes, entre autres notre ami Tigui qui était là, que j'ai vu, à qui j'ai parlé tout à l'heure, puis qui m'a posé la question, m'a dit « Alain, pourquoi qu'on n'a pas une équipe Junior 3 comme ça à Lévis? »
Il m'a posé la même question, ouais. Moi aussi.
Très bonne question, mais c'est ça. Il y a déjà du Midget 3, il y a déjà du Junior 2A, mais je regardais le calibre, je regardais les gens, puis je regardais les gens surtout apprécier le spectacle. Je vais te dire, ça aurait été, ouais, ça serait quelque chose peut-être dans le futur. Pour l'instant, ils sont très bien à Montmagny, ils sont très bien traités, mais qui sait ce que l'avenir peut nous réserver un jour ou l'autre.
Mais l'an prochain, avec l'avenue de Saint-Georges-de-Beauce.
Quelle belle rivalité. Quelle belle rivalité. Wow, j'ai déjà hâte. J'en entendais parler justement, j'entendais du monde. Oui, l'année prochaine, une équipe basé à Saint-Georges, fait que tant mieux, on en veut du bon hockey.
Es-tu capable de nous dire c'est qui va être l'entraîneur de Saint-Georges-de-Beauce
l'an
prochain?
Oui, le frère de Marie-Philippe Poulin, c'est-à-dire Louis... Louis-Philippe, ouais. C'est... là, son prénom m'échappe, mais... Monsieur Poulin, le frère. On va l'appeler le frère de Marie-Philippe. Un grand gaillard, on va l'appeler, tiens, le frère de Marie-Philippe.
On voit que la Beauce est rendue vraiment pour toi. Tu dois dépeindre un peu. Tu dois avoir un peu genre à noir. Hein?
Ah, tranquillement, là. Je m'en viens. Ça commence à monter le long des mollets, là. Gaétan, avant qu'on tombe dans nos tours d'horizon, on va avoir un invité ce soir, un retour, un invité qu'on avait eu la chance d'avoir dans une de nos émissions spéciales plus tôt cette année. Un enseignant et un entraîneur au Collège de Lévis, Normand Poisson, qu'on aura la chance d'accueillir avec nous, qui a eu l'amabilité de réaccepter notre invitation. Le dernier coup, on avait été squeezé un petit peu dans le temps. On va s'organiser pour se garder plus de temps pour parler de son présent, mais aussi de son passé, parce qu'il y a... Il y a un passé très intéressant dans le domaine du hockey, puis je veux qu'on y touche.
Avec les belles anecdotes qu'il va pouvoir nous conter, là.
Exact.
Des bonnes puis des drôles.
Ben surtout, on s'attend, j'allais dire du name-dropping, là, on a quelques questions qu'on s'attend d'avoir des réponses intéressantes pour nos auditeurs. Tour rapide, ben on a le tournoi à Tombes de Lévis qui s'est terminé. Encore une fois, très beau succès. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens du tournoi. Ils sont très heureux et sortent fatigués comme à l'habitude de ces deux semaines-là, mais c'est deux très belles semaines. Donc, très, très, très content pour eux. Malheureusement, avec les dernières finales qui ont lieu ce week-end, aucune formation là, de la Rive-Sud de proche qui était en finale. Mais malgré tout, comme j'ai mentionné, beau succès de foule. Junior 2A, nous en parles-tu un petit peu? Parce que là, fin de saison qui est arrivée, on a les séries qui approchent à grands pas, on va avoir.
Fin de semaine, c'était une série pré-éliminatoire qu'il a dit. Ouais. Là. Les 8e, 9e, 7, 8, en tout cas, ouais. Les quatre dernières.
Exact.
Fait que, pour ce qui a trait de l'expert Rive-Sud, eux autres finissent en deuxième position.
Ouais.
Ils ont une défaite en fusillade dimanche contre Disraeli.
Oui.
Je dirais que c'est un peu leur bête noire cette année, ça. S'ils calculent, mettons qu'il y aurait une moyenne de 500 avec eux autres, ça serait très, très bon. Ils auraient été encore plus proche de Sainte-Marie.
Ouais.
Puis Sainte-Marie termine en première. Fait qu'en fin de semaine, ça va être ça. C'est les séries pré-éliminatoires dont Lobinière fait partie.
Oui.
Puis Lévis aussi, Honda, va faire partie.
Non, pas Lévis, Honda, je pense pas. Lobinière. Oui, Lobinière contre Beau-Centre en ronde de qualification.
OK, oui, excuse-moi. Ouais.
Oui. Lévis, eux autres, connaissent déjà leur adversaire. Ça va être Plessisville au premier tour.
C'est ça.
Bellechasse vont affronter Disraeli de leur côté.
C'est ça.
Puis Saint-Romuald et Sainte-Marie, eux, vont attendre le résultat de la ronde de qualification là, qui a lieu en fin de semaine, qui départage là, les dernières équipes au classement. Donc, on va suivre ça. Mais ça va être intéressant parce que plus ça va aller, puis plus on va retomber avec des belles rivalités. Là. On a parlé de Saint-Romuald, on a parlé de Bellechasse, Lévis même qui a fini bien classé, Lobinière qui peut causer une surprise. Donc, on pourrait se ramasser encore, puis en demi-finale avec des belles rivalités régionales. Ça va être des séries bien intéressantes à suivre.
Puis, faut surveiller aussi Bellechasse parce que chaque année, Bellechasse, ils finissent, c'est un peu la saison, puis là, ils recloquent, c'est eux autres. Ouais. Ils ont gagné trois fois la Coupe Dodge.
Hein? Exact. Faut jamais les sous-estimer. Non, LHPS, as-tu quelque chose à nous parler de leur côté?
Un petit tour d'horizon parce qu'en fin de semaine, il n'y a pas eu grandes équipes. Il y a les M12 majeurs qui est à Saint-Hyacinthe, une victoire, une défaite. Eux autres sont bons pour la quatrième position. Les M13 majeurs, eux autres, est à Saint-Léonard d'Aston. Une victoire 3-0 contre la Polyvalente dans l'ancienne Lorette. Ensuite, ça, septième position pour le M13 majeur. Mais c'est un groupe très, très serré. Hein. Ils gagneraient leur dernière partie pour se ramasser en troisième position.
Exact.
Les M15 élite, eux autres, à Pierrefonds. Vendredi, le match a été remis.
J'ignore pourquoi.
Je sais pas. Il neige pas chez toi?
Un peu.
Mais tu peux. On va en parler avec notre ami Norme tantôt, parce qu'il a vécu la Beauce dans la tempête.
Ouais.
Le M15 élite, eux autres, est à Pierrefonds, comme je disais. Samedi, une victoire de 5-2 contre le collège de Jean de la Menet. Avec 8 joueurs en attaque, il y avait des blessés. En tout cas, 2 joueurs du majeur, M15 majeur, qui étaient avec les hommes de Sébastien Blanchette. Pour les M18, eux autres, encore une autre victoire. Il est à Saint-Anne-de-la-Pérade contre Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Une victoire de 8-4. Ils sont en deuxième position, mais avec 4 parties en main sur la première position qui sont à 1 point. Fait que, pour moi, ça fait pas mal le tour du M17 majeur. Les autres, ils devaient jouer vendredi, c'était remis. Ils sont en quatrième position à 6 points de la première.
Oui.
Fait qu'ils ont 3 parties en main en plus. L'M15 majeur, puis l'M15 relève est à pas en action.
M15 relève est en action en tournoi.
En tournoi, oui.
Exact. On en reparlera à notre invité dans quelques minutes. Okay. Parlant de tournoi, ben on a deux gros tournois qui débutent dans les prochaines heures, là, à partir de demain. Tournoi Pee-Wee de Québec et le tournoi Pee-Wee de Bernière. Deux tournois avec la nomenclature internationale, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'équipes de l'extérieur qui viennent y participer.
C'est 211 équipes qui vont être incroyable. En action à partir de demain.
Donc, incroyable.
Fait que c'est beaucoup de belles retombées économiques pour la région.
Parce qu'il y a des accompagnateurs qui viennent avec ces gens-là. Donc, tant mieux, des belles retombées qui restent à Lévis dans la grande région de Québec. Wow!
Fait qu'avant d'aller avec Normand, si tu veux, le Collège de Lévis va être demain à 14h15. Ils vont jouer leur premier match contre le Collège Charles-Lemoine. Mm-hmm. Pour ce qui a trait des corsaires RSEC, c'est contre la polyvalente de l'ancienne Lorette à 16h45.
Oui.
Et dimanche à 13h, les corsaires Petits Nordiques, qui représentent les Petits Nordiques, vont affronter les Sharks de San Jose.
Yes. Parlant des corsaires RSEQ, ceux qui jouent dans le Benjamin D1, qui vont être dans la classe scolaire au tournoi Pee-Wee de Québec, j'ai parlé avec Gabriel Beaupré, leur entraîneur, puis il était en tournoi en fin de semaine dernière du côté de Vaudreuil-Dorion. Se sont inclinés en demi-finale. Un match qu'ils auraient dû gagner, là. Ont perdu 6-4. Il dit, petite erreur de parcours, on aurait dû gagner ce match-là, se rendre en finale, puis normalement, remporter les grands honneurs. Ils disent, écoute, on doit avoir gardé ça pour Québec. Ils veulent se reprendre là, puis aller jusqu'au bout. Donc, à toutes les équipes qui participent, ceux qu'on a nommés, même ceux qu'on n'a pas nommés, là, les autres de la région de Lévis, bonne chance pour ce tournoi-là.
Bon, ben, c'est beau. Fait que là...
Notre invité. Écoute, je vais y aller d'une petite imitation. Si les Blues de Saint-Louis avaient le prof Ronald Caron, ben on peut dire que le Collège de Lévis a le professeur Poisson, Normand Poisson. Bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation.
Un plaisir.
Puis là, j'ai fait une petite parodie, une petite imitation du prof Ron Caron parce que a été longtemps impliqué dans la Ligue nationale, entre autres avec les Blues de Saint-Louis.
Avec le Canadien.
Avec le Canadien aussi, c'est ça. Puis on le surnommait le prof Caron parce que de formation, c'est un professeur, un enseignant qui est devenu dans le milieu du hockey. Bien, notre invité Normand.
J'aimerais te rappeler de ne pas trop faire de joke de même parce qu'on pourrait te perdre et pourrait venir te chercher au grand rire.
J'étais encore loin. Fait que non, je faisais des blagues, c'est ça. Écoute, Normand Poisson, enseignant en éducation physique au collège, entraîneur du M15 relève au collège également et ancien dépisteur dans la Ligue nationale de hockey, dépisteur amateur, donc ceux qui... qui scrutent les joueurs d'âge junior et qui dépistent là, les futures vedettes de demain. Donc, comme je disais, bienvenue à nouveau. Normand, avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton expérience, toi, comme joueur. Là, ça a commencé où, cette passion-là pour le hockey? Parce que je sais que ça t'a mené jusqu'au niveau universitaire, qui est un universitaire québécois, qui est un calibre souvent un peu inconnu. Mais tu as joué avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais rapidement, ton amour pour le hockey s'est développé comment?
Moi, j'ai joué au hockey mineur, je viens de Charny. Dans ce temps-là, le hockey mineur n'était pas tellement développé. C'était plus au niveau des paroisses. Alors, j'ai joué jusqu'à Midget, j'ai joué jusqu'à pour Charny.
Les roughs de Charny.
Ensuite de ça, j'ai joué junior. J'ai joué junior dans la Beauce, puis à Charlebourg, le junior B. Puis après ça, j'ai gradué à l'Université Trois-Rivières. J'allais faire mon cours en éducation physique. Fait que j'ai joué là-bas. Donc,
Wow! Beau parcours.
Parce que je sais pas, c'est vrai, toi, tu viens de Saint-Jean, mais à l'époque, disons, je vais parler de mon époque. Ouais. Moi, là. Quand on disait on va Charny, oh boy, attelez-vous, c'est quelque chose, ça joue à rough and tough.
Saint-Jean, on a été pendant un petit bout de temps, quelques années, on a été affilié avec Charny. J'ai joué quelques saisons, moi, affilié. Après ça, on est tombé ennemi. On est passé d'ami à ennemi. Donc, oui, là, je l'ai trouvé rough dans ce temps-là. J'aimais mieux avoir avec moi. Tes débuts en enseignement, ben je présume que suite à ton passage à l'UQTR, c'est là que le bac en enseignement s'est fait.
Ben c'est ça. Puis en plus, ben j'ai fait 2 ans de... Quand tu commences comme un jeune prof, c'est souvent des résidus de tâches ou tu fais de la suppléance, des choses de même. J'ai fait ça 2 ans, puis ensuite de ça, je me suis mis à me poser des questions parce que je me disais, quand est-ce que je vais avoir un job à temps plein? Puis c'est encore de même aujourd'hui, là, des jeunes profs, c'est difficile. Mais j'ai quitté l'enseignement pendant un bout de temps. Mais c'est de même que je vais commencer à m'impliquer aussi dans le coaching. Puis éventuellement, ça m'a mené à une carrière de recruteur. Alors, j'ai fait un diplôme en information informatique quelques années plus tard de mon cours en éducation physique complémentaire. C'était un peu ça qui m'a valu ma première job avec les Nordiques. On okay. dit en informatique parce que c'était la combinaison éducateur physique, gars de hockey, puis dans ce temps-là, en 1993, ben, l'informatique, les clubs commençaient à faire leur rapport sur l'informatique, tout ça, puis Pierre Paget avait trouvé la combinaison intéressante. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont engagé.
Fait que les débuts officiellement impliqués dans le hockey au niveau Ligue nationale, c'était en 93.
Ouais,
OK.
Les Nordiques de Québec, oui.
La fameuse année 93.
C'était-tu ouais. DG, c'était-tu Pierre Paget?
Pierre Paget, oui.
DG entraîneur, oui.
Sa dernière année.
OK. Ouais. L'année qu'ils auraient dû gagner?
Non, c'est l'année d'avant. L'année que Canadien a gagné, c'est l'année d'avant.
OK.
92-93.
Ah oui, t'as raison, c'est vrai, parce que là, toi, c'était l'année 93-94.
Au mois de septembre, okay. cette année-là.
OK. Puis comment ça s'est fait, justement, ça, de commencer, là, tu parles, bon, au niveau de l'approche, plus la partie informatique, mais de dire, moi, je pars, puis il m'envoie d'un aréna, aller voir un match de hockey junior majeur, puis faut que je commence à spotter c'est qui les joueurs à repêcher. Ça se fait comment, ce passage-là?
Bien, c'est sûr qu'on avait une certaine expérience dans le sens que j'ai fait du junior. Tu sais, à un moment donné, j'étais le premier dépisteur-chef des Moussettes d'Halifax. Alors, tu sais, j'avais 5-6 ans de bagage au niveau junior majeur, au niveau okay. du recrutement. J'ai gradué dans la Ligue nationale à 31 ans. Alors, j'avais pas beaucoup nécessairement d'expérience au niveau du scouting, mais je pense que j'avais fait mes preuves dans certains calibres. Alors, j'étais un jeune recruteur, donc j'étais là pour apprendre, puis j'avais les yeux ronds comme des 30 sous parce que je regardais tout ça autour, là, puis tu vois ça de l'extérieur. J'ai toujours été un fan des Nordiques, puis tu arrives, tu fais partie le soir qu'il y a eu le premier meeting où tous les joueurs, tu voyais Sakic, tu voyais Sundin, tu voyais tous les gros joueurs, puis tous les coachs, puis les recruteurs, puis j'avais les yeux, j'étais émerveillé. C'était une expérience que j'oublierai jamais. Puis vivre le camp d'entraînement, vivre les meetings, puis tout le kit, c'était quelque chose. J'étais là pour apprendre. J'étais un jeune recruteur, puis j'écoutais plus que je parlais. Alors, tu essayais de gober tout ce qu'il y a, puis j'avais eu un bon professeur en Dave Draper, qui était le recruteur chef des Nordiques pour puis l'Avalanche pour quelques saisons. Puis lui m'a donné une bonne. Il m'a mis sur la traque, comme on dit dans l'expression. Lui m'a donné des bons cues pour devenir un meilleur scout, puis tout ça. Puis j'ai toujours gardé ce monsieur-là en mémoire. Puis j'ai eu beaucoup de bons amis aussi francophones qui m'ont aidé aussi dans mon parcours. Je l'ai déjà dit l'année passée, là, M. Madden, Simon ouais. Allais, tout ça, c'est des gars qui ont été une influence extraordinaire sur ma carrière. Alors, quand je suis arrivé avec les Nordiques, c'était vraiment là, quelque chose. Là, je m'attendais jamais à graduer professionnel si jeune. Alors, j'ai pris ce que je pouvais, puis j'ai fait 22 saisons.
Wow.
Là, j'espère que je vais en faire une 23e à un moment donné. Là. Et, des fois, c'est difficile. Quand tu sors de la roue, c'est difficile. Ouais. Le business change. C'est une question de contact. Alors, Je suis pas mal fier de mon parcours, pareil. Fait que je sais pas si je vais y retourner un jour. J'espère bien. Mais on verra ce que l'avenir va nous dire.
Outre les Nordiques, les formations avec lesquelles tu as travaillé?
Les Bruins, une année. J'ai travaillé pour les Flames de Calgary aussi, les Trashers d'Atlanta, puis les Sabres de Buffalo.
OK. Différence organisationnelle notable d'une équipe à l'autre? Y a-tu c'est quoi les choses que tu as vues d'une organisation à l'autre que tu as dit hey, « Wow, j'aurais aimé qu'on aille ça dans le temps, mettons, que j'étais avec les Nordiques » ou à l'inverse, j'aurais aimé pouvoir amener ça, mais il n'y avait pas d'ouverture de leur côté.
Bien, chaque équipe a sa propre recette. Je pense que ça dépend toujours des gens qui la composent aussi. L'organisation, c'est composé d'individus. Une organisation, avoir une philosophie, c'est basé sur les individus. Puis quand j'ai vécu plusieurs changements de gérants. À Buffalo, on a eu trois gérants.
En cinq
saisons. Puis c'est des changements de philosophie. Puis même au niveau du recrutement amateur, ça changeait toute l'échelle de projection. Puis la façon de faire. Puis tout ça. Fait que, tu sais, chaque équipe a sa recette. Puis il faut que tu t'adaptes. Il y a des recettes qui ont peut-être fait un peu plus leur preuve, mais c'est. Dans la Ligue nationale, c'est suivre la mode. Aussitôt qu'une équipe a beaucoup de succès, souvent les autres équipes essaient d'emboîter le pas, puis c'est de même depuis le temps, la nuit des temps. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup les stats avancées, puis il y a quelques équipes, là, plusieurs années, ont commencé à utiliser ça, puis depuis ce temps-là, bien ça, c'est rendu une mode. Jusqu'à la prochaine, on ne sait pas ça va être quoi, là, mais il y a eu le vidéo. Buffalo a essayé d'être innovateur au niveau du vidéo pour le recrutement. Avant, quand tu avais du vidéo pour les entraîneurs, pour scouter les matchs, du pre-scouting pour les matchs, ou regarder leur jeu pour essayer d'améliorer le système de jeu et tout ça. Mais sauf que Buffalo était une des premières équipes à utiliser le vidéo. Je pense que San Jose aussi a utilisé beaucoup le vidéo. Puis ça a été très innovateur, mais il y avait des clubs qui étaient réticents un petit peu à emboîter le pas parce que on disait ça prend du monde dans les arénas, mais tu peux croire que tu peux faire les deux. Tu peux avoir du vidéo et des recruteurs amateurs dans les arénas. Puis aujourd'hui, tu regardes la norme, tu regardes beaucoup de vidéos. Tu sais, c'est un outil extraordinaire. Comme les stats avancées, c'est là pour rester. Mm. Alors, c'est quelque chose qui aide beaucoup à prendre des décisions pour le management et pour les recruteurs.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses des stats avancées?
Alors, moi, je pense que c'est une excellente chose parce que ça dépend toujours de l'échantillonnage. J'ai suivi un petit cours là-dessus. J'ai appris quelques affaires. Ça dépend toujours de l'échantillonnage que tu as. Si c'est sur une période à long terme, je crois qu'il y a certaines choses que tu peux aller chercher. Ça dépend qu'est-ce que tu veux avoir. Mais aujourd'hui, les clubs de la Ligue nationale utilisent l'intelligence artificielle. Ils regardent des vidéos, puis il y a une entreprise qui s'appelle Sports Logic qui est basée à Montréal, que même je crois que les diffuseurs utilisent cette technologie-là. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux demander des entrées de zone par le centre, puis ils vont tous te donner une stats. Jack Eichel, l'exemple à Buffalo, il a rentré 5 fois par le centre, 4 pour des passes où ce que il a réussi à connecter avec un de ses joueurs. On pourrait appeler ça une entrée de zone qui était réussie. Il y a toutes sortes de stats, il y a toute une panoplie.
On est capable de déceler les tendances facilement.
C'est ça. Est-ce que c'est une équipe qui fait beaucoup de dumping? Est-ce que c'est une équipe qui aime qu'est-ce qu'ils font sur le jeu de puissance? Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher. C'est toujours de l'interprétation. Comment tu interprètes les données? C'est la prise de données.
C'est là le danger. Tu sais, des fois, on sent des organisations vouloir, puis pas juste au hockey, au baseball, dire on s'en va all the way vers les stats avancées. Mm. Mais je pense qu'il y a toujours place à l'humain aussi, parce que ça prend un humain, un, pour interpréter ça. Puis deux, faut être sur place, faut prendre le pouls, à moins que je me trompe, là, mais il n'y a rien comme être assis dans une aréna, puis sentir live, puis voir le joueur, puis le voir à l'entraînement, puis le voir dans l'échauffement, puis...
Il faut qu'il y ait un équilibre dans tout ça.
Exact.
Tu peux pas...
Comme dans tout.
Tu peux pas te fier exclusivement aux stats avancés. Tu sais, à un moment donné, possession de rondelles. Exemple, juste un exemple aussi anodin qu'une mise en jeu. Gagner une mise en jeu, c'est reprendre la possession, mais dans la Ligue nationale, pour une mise en jeu gagnée, il faut que tu aies la possession plus qu'une ou deux, trois secondes. Okay. Faut que tu l'aies peut-être 4-5 secondes pour voir vraiment qu'est-ce que tu vas faire avec. Tu peux prendre possession, mais si ton joueur fait une passe à l'adversaire, tu peux pas dire que ça a créé une opportunité. Ouais. Fait que c'est comment tu interprètes, comment que tu vois la game. Puis je pense qu'il y a un équilibre. Le facteur humain est toujours là. C'est de l'humain. Les décisions qu'ils prennent, des fois, ça manque un peu de rationalité ou c'est de l'humain sous pression, quelles décisions qu'ils prennent. Fait que, tu peux pas être cartésien comme des stats avancés, mais ça aide souvent à déceler des tendances. Puis c'est sûrement utile les négociations de contrat. Il y a plein de. Ça peut avoir un impact sur beaucoup d'aspects au niveau de la business du hockey.
C'est sûr. Là, on tombe dans une partie. De name dropping, puis sans toi à l'aise de si tu veux répondre ou non, s'il y a des gens que tu n'étais pas à l'aise de nommer, tes bons coups, les coups que tu es le plus fier, là, tu dis ça, là, c'est un ou des joueurs que je me suis battu bec et ongle à la table pour dire je veux qu'on repêche ce joueur-là, puis finalement, ça a donné un coup de circuit à une des organisations pour lesquelles tu as travaillé.
Ben, dans les 22 ans, ce qu'il faut dire au départ, c'est que c'est un job d'équipe. Alors, personne ne peut revendiquer un succès individuel parce que, veux pas, quand tu n'es pas en charge, tu es un gars de terrain, ça prend l'approbation de tes patrons. Alors, j'ai toujours été humble de ce côté-là. J'ai pas repêché de super vedettes. Parce que les super vedettes, ben, tu les repêches dans les premiers rangs, puis souvent, ben, tu vas les repêcher en fin de... Tu sais, dans le draft, mais ça te prend l'approbation des fois de tes patrons, est-ce que le support de tes collègues, puis tout ça. Je me souviens, le dernier exemple, c'est Philip Myers. J'ai essayé autant qu'on le repêche, puis ça n'a pas fonctionné, puis je croyais en ce gars-là. Puis
je pense qu'il n'a même pas été repêché par aucune équipe.
Il n'a pas été repêché par aucune équipe. Je voulais qu'on l'invite. Ils ont invité un autre joueur. Puis il est allé au camp de Calgary, ça n'a pas marché. Il est allé au camp de Philadelphie, ils l'ont signé. Puis aujourd'hui, mes anciens collègues, ils le voient jouer. Puis ils me disent, ouais, non, mais t'avais raison. Mais tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres. On ne peut pas vraiment avoir la science infuse. Mon premier joueur que j'ai repêché, c'est Steve Bégin. On l'a repêché en deuxième ronde avec Calgary en 1996. C'est mentionné d'ailleurs dans son livre.
Okay.
C'est un choix surprise parce que c'est un kid qui n'était pas nécessairement un marqueur naturel. C'était pas un élégant patineur, mais quelle compétitivité, quel cœur au ventre. Comme on dit dans l'expression du hockey, il y avait du grit. C'était un gars qui n'avait pas peur de jeter les gants. Dans ce temps-là, dans ces années-là, c'était important. C'est un gars qui n'avait aucune peur de personne. À sa première game, il a joué contre Wayne Primo, qui mesure 6 et 5, puis il est allé. Mais c'était un bon joueur de hockey aussi. C'était un bon joueur d'utilité aussi. Il pouvait tuer les punitions et tout ça.
Est-ce que c'est le genre de joueur, quand tu commences à t'intéresser à lui, on connaît, puis on connaissait tout un peu l'environnement familial dans lequel il a été élevé.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur à une organisation ou à l'inverse, tu dis, s'il a passé au travers de ça, oui, c'est un joueur qu'on veut avoir parce qu'il va aller à la guerre tous les soirs. Puis,
Il faut que tu évalues sa personnalité aussi. Ce que tu vois, ça a l'air, c'est une chose. Il faut que tu évalues sa personnalité. Puis, tu sais, comme recruteur, tu fais tes devoirs, tu essaies de faire du background check, comme on dit, c'est l'expression anglaise, là, mais du background check, puis ce petit gars-là a passé des épreuves, puis a passé des choses au travers, puis tout le monde était unanime que c'était un gars de caractère, puis c'est ça qu'on recherchait. Le caractère, c'est quelque chose qu'il faut qu'on vérifie parce que sans ça, si tu as tout le talent, mais tu n'as pas nécessairement le caractère, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que là, c'est quelque chose qui est... Tu peux pas réussir dans la vie sans avoir une certaine forme de caractère.
Absolument.
Alors, c'est pas juste dans le hockey. Mais ce gars-là m'avait attiré l'œil par sa façon de jouer. C'était constant, c'était tous les soirs. La constance, c'est ce qu'on recherche aussi. On sait ce qu'on a. On l'a peut-être pris un petit peu de bonheur, mais on l'a pris en deuxième ronde, mais on savait qu'en troisième ronde, quand on parlerait, il serait plus là. Alors, des fois, tu te dis, OK, on va prendre un joueur qu'on aime, puis tu peux pas faire autrement d'aimer un joueur comme ça, mais il faut faire attention, il faut que tu le prennes au bon moment. Alors, on avait la chance d'avoir deux choix consécutifs. Alors, on a pu se permettre de le prendre, mais est-ce que si on repêche au début de la deuxième ronde, est-ce qu'on aurait pris la même décision? Je ne sais pas.
Ben, en tout cas, avec du recul, bonne décision.
Oui, c'est une bonne décision. Il a eu une belle carrière. T'sais, les autres aussi, il y a eu Simon Gamache, qui était on a repêché en neuvième ronde en 2001, la même année que Danny Heatley. Il a joué quand même 60 games pour un choix de 9e tour. Là, il a eu une belle carrière dans la Ligue américaine aussi, puis en Europe.
Juste jouer 10 ans trop tôt dans la Ligue nationale.
Oui, possiblement.
Ça serait un joueur qui serait très recherché aujourd'hui. Sa petite taille ferait pas peur, probablement moins peur aux équipes parce que les habiletés offensives incroyables.
Puis je pense que les entraîneurs auraient eu peut-être plus d'ouverture à le faire jouer. C'est parce que c'était difficile dans ce temps-là pour les petits joueurs. Puis c'était pas un gars qui était doté d'une vitesse exceptionnelle. Fait que c'était pas Johnny Goudreau. Là,
non.
Mais c'était un super junior. Là, rempli de net à Val d'Or. Puis ça, fait que, tu sais, le gars, je suis fier aussi, c'est Ilya Kovalchuk. C'est un joueur spécial pour moi parce que, petite anecdote, j'étais allé à Timmins au moins 17 ans. Ça, c'est l'année de l'an 2000. On tombait en l'an 2000 durant ce tournoi-là. Et puis, ça, on va toujours me souvenir de ça. C'était un tournoi d'identification. Les moins de 17 ans, fait que ils sont éligibles l'année suivante. Donc, on va. Toutes les équipes européennes, les équipes nationales d'Europe, comme la Finlande, la Suède, la Russie, la République tchèque, l'Allemagne, vont toutes à ce tournoi-là. Alors, c'est un tournoi qui est très couvert par les clubs de la Ligue nationale pour avoir une idée de ce qui s'en vient l'année suivante. Puis, le premier match que je vais voir, c'est les Russes. Je ne me souviens plus contre qui. C'est-tu contre les Tchèques? J'ai aucune idée des joueurs que j'ai à watcher, sauf une couple de joueurs de la Ligue junior majeure de l'Ouest, de l'Ontario puis du Québec. C'est pour ça qu'on va suivre ce tournoi-là, parce que c'est identifier des Européens, des fois que c'est difficile. Je vois pas un voyage à Omsk, en plein milieu de la Sibérie, en Russie, pour aller voir ce qu'on appelle un underage. Alors, j'étais assis dans les estrades, j'attends le début de la game, et la partie commence, il y a Kovalchuk en balle sur la glace. Après le premier chiffre, j'ai dit « Wow! Wow! » Si ce gars-là n'est pas premier overall, le joueur qui va le ou les joueurs qui vont le devancer vont être des excellents joueurs. Puis, on a eu la chance de gagner à la loterie cette année. Moi, je voyais ce petit gars-là dans ma soupe. C'était un wow. Tu peux pas faire autrement de tomber en amour avec un gars comme ça. Il avait la rapidité, il avait le gabarit déjà, il avait le lancer, l'intelligence, la compétitivité. C'était pas son année de draft cette année-là, mais l'année suivante, je tapais du pied. J'avais hâte de le voir, voir aussi son évolution. Puis, on a eu la chance au mois d'avril de gagner à la loterie. Puis je me dis, on va drafter lui, ça c'est certain. Il y avait dénommé Jason Spezza aussi qui faisait compétition, qui était un exceptionnel dans la Ligue de l'Ontario à 15 ans. C'était les deux meilleurs joueurs du draft projetés. Alors, quand on a gagné la loterie, je pense qu'on on a célébré un petit peu parce qu'on venait de drafter Danny Heatley qui était un excellent joueur.